Voilà, donc on se retrouve pour partager une chronique littéraire. Donc je vais vous présenter un livre et une auteure et vous expliquer pourquoi j'ai trouvé intéressant d'en parler. Voilà, donc je voulais parler du roman Esprit d'hiver de Laura Kosciuszko. Alors pourquoi ça a du sens pour moi de présenter cet auteur et ce livre dans Lilith, Martine et les autres? En fait, c'est parce qu'elle écrit essentiellement sur des personnages de meufs et sur leur univers de vie de famille. Et je trouve qu'elle le fait avec justesse et finesse, et que c'est pas si facile de trouver des auteurs comme ça qui tombent pas dans la mièvrerie dès lors qu'elles élaborent des personnages féminins, en fait. Donc Laura Kosciuszko, qui c'est une auteure américaine, elle est née en 1961. Elle est professeure de langue anglaise et d'écriture à l'université Ann Arbor du Michigan. Elle a commencé à publier des recueils de poésie dans les années 90 et ensuite elle a publié plusieurs romans. Donc le premier c'était A Suspicious River en 1997. Ensuite il y a eu Un oiseau blanc dans le blizzard en 99. Puis La vie devant ses yeux, En un monde parfait ou encore Esprit d'hiver dont je vous parle aujourd'hui. Donc il y a d'autres romans, hein. Ça c'est. J'en ai choisi quelques-uns, ceux qui sont le plus connus. Et donc tous ces romans en France sont édités chez Christian Bourgeois. Et en plus de ça, il y a plusieurs de ses romans qui ont été adaptés au cinéma. Donc il y a eu Suspicious River adapté par Lynn Stopkevich en 2000. Il y a eu aussi La vie devant ses yeux qui a été réalisé par Vladim Perelman en 2008. Et il y a eu Un oiseau blanc dans le blizzard qui a été adapté par Greg Araki en 2014. Et donc d'ailleurs, je l'ai vu ce film et je conseille le film et le bouquin parce que les deux se spoilent pas mutuellement, quoi. L'adaptation est assez libre, donc ça n'empêche pas de lire le livre derrière, ou avant même. Voilà, donc je voulais parler du bouquin aussi, Un oiseau blanc dans le blizzard, parce que ça situe ma rencontre, si on peut dire, avec Laura Kosciuszko. Et donc voilà, pourquoi je vous parle d'un oiseau blanc qui n'est pas l'objet de ma chronique aujourd'hui, c'est parce que j'ai le sentiment qu'il m'a fait entrer en contact avec l'auteur, en fait, avec son univers. Je m'explique. Elle décrit dans ses deux romans, d'une manière que je trouve extrêmement juste et saisissante, l'ennui des familles blanches américaines. Il y a une forme d'inaction, où pourtant résident les émotions, le passé et le présent des personnages. Donc il y a cet ennui et cette inaction, là, ils ont failli me faire m'ennuyer, quoi. Presque à un moment, je me suis dit, bon, est-ce que je continue? Là, je me fais un peu chier. Mais en fait, elle réussit quand même à instiguer un genre de suspense relationnel qu'elle intègre à l'ennui. C'est-à-dire que on est quand même tenu. Il y a une question qui rôde dans le personnage, là, sans qu'il se la pose réellement. Il y a une certitude que les choses sont pas ce qu'elles semblent être, ou ce que le personnage veut qu'elles soient. Et ça tient en haleine et ça pousse à aller au bout du livre. Et on a raison, parce qu'à la fin, c'est la révélation, en fait. Il y a quelque chose comme ça qui vient tout exploser. Les choses prennent tout leur sens. Et cette explosion, cette révélation, elles font exister le récit d'une manière totalement différente de ce qu'on avait perçu jusque-là. Toute l'histoire se met à prendre du relief, et tout ce qu'on trouvait un peu insipide ou qu'on prenait pour de l'ennui du quotidien, là, ça revêt soudainement une toute autre signification. Donc voilà, je voulais parler d'un oiseau blanc dans le blizzard en introduction, parce que quand je me suis attaquée à Esprit d'hiver, j'ai pas été trop surprise de m'ennuyer, ou qu'il se passe pas grand-chose, quoi. Et je pense que ça m'a d'autant plus permis d'apprécier ce bouquin et d'entrer dans son suspense, parce que j'ai pas eu à me dire est-ce que je continue, machin, machin, je m'y attendais un peu, quoi. Voilà, donc ceci étant dit, j'entre dans le vif du sujet et je vous fais un petit résumé du récit. Donc Esprit d'hiver, ça raconte une journée de Noël dans une famille blanche de classe moyenne américaine. Donc comme personnage, il y a la mère qui s'appelle Holly, et c'est de son point de vue que s'effectue la narration tout au long du roman. Il y a aussi Eric qui est son mari et Tatiana leur fille unique. Et donc Tatiana elle est surnommée Tati à plusieurs reprises dans le roman, je vous le dis parce que quand je vous lirai des extraits, c'est comme ça qu'elle sera nommée. Voilà, donc la journée elle débute sur le réveil d'Oli. Elle sort du sommeil avec une étrange intuition. Elle se répète en boucle, en boucle, en boucle. Quelque chose nous a suivis depuis la Russie jusque chez nous. Noël 2000 quelque chose. Ce matin-là. Elle se réveilla tard et aussitôt elle sut. Quelque chose les avait suivis depuis la Russie jusque chez eux. C'était dans un rêve, pensa Holly, que cette bribe d'information lui avait été suggérée, tel un aperçu d'une vérité qu'elle avait portée en elle pendant combien de temps au juste? 13 ans? 13 ans. Elle avait su cela pendant 13 ans, et en même temps elle l'avait ignoré. C'est du moins ce qu'il lui semblait, dans son état de demi-veille en ce matin de Noël. Elle se leva du lit et s'engagea dans le couloir en direction de la chambre de sa fille, pressée de voir qu'elle était là, encore endormie, parfaitement en sécurité. Oui, elle était là. Tatiana, un bras blanc passé sur un couvre-lit pâle. Les cheveux bruns répandus sur l'oreiller. Si immobile qu'on aurait dit une peinture. Si paisible qu'on aurait pu la croire. Mais ce n'était pas le cas. Elle allait bien. Rassurée, Oli retourna dans sa chambre et se glissa de nouveau dans le lit près de son époux. Mais à peine allongée, elle pensa encore une fois. Cela les avait suivis jusque chez eux. C'est quelque chose que Oli avait su, apparemment, au plus profond de son cœur ou de son inconscient, ou quel que soit l'endroit où ce genre d'information se terre à l'intérieur d'une femme à son insu pendant des années, jusqu'à ce qu'un événement lui fasse prendre conscience qu'elle a oublié ou refoulé, ou... Ou bien était-ce une chose qu'elle avait volontairement ignorée ? À présent, elle s'en apercevait. Quelque chose les avait suivis depuis la Russie jusque chez eux. Donc après, on apprend assez vite que Oli et Eric, en fait, ils ont adopté Tatiana en Russie, dans un orphelinat, et qu'ils ont fait plusieurs voyages là-bas pour pouvoir l'adopter. Donc à partir de ce pressentiment-là, quelque chose nous a suivis depuis la Russie. La journée s'amorce, Eric se réveille en trombe parce qu'il a oublié, enfin il est en retard pour aller chercher ses parents à l'aéroport. Et donc en attendant les invités, Oli et Tatiana se retrouvent seuls. On va assister à la préparation de cette journée de Noël, et ça nous place en témoin de la complexité du rapport qui unit la mère et la fille. Donc en fait, ce rapport, il oscille entre équilibre et tension, au gré des humeurs et des manies de l'une ou l'autre. En fait, ça n'arrête pas comme ça, c'est des montagnes russes émotionnelles. Un coup on s'aime, un coup on s'engueule, tout le temps, tout le temps. Et l'auteur alterne les scènes de vie, donc de cette journée a priori banale, et les souvenirs qu'a Oli de l'adoption, de l'orphelinat, de l'enfance de sa fille, et de tout le processus là qui l'a fait avoir un enfant alors qu'elle était stérile. Et en définitive, bon, il se passe pas grand-chose à part des petites embrouilles à propos de qui mettra la table, qui répondra au téléphone, là, voilà. Mais au fil du récit, on sent une tension monter en Oli. Oli ne mit ni chaussures, ni parfum, ni boucle d'oreille, pas même sa montre. Elle se rendit directement, les pieds en collant, dans la cuisine où elle tomba sur Tati, qui regardait dans sa main l'iPhone que Oli avait laissé sur le comptoir. Une lueur bleue et froide émanait de l'écran, donnant à la peau de Tati une teinte que Oli n'aimait pas, le teint d'une malade ou d'une noyée. Tati avait un teint superbe, qu'on aurait dit de porcelaine, sauf que la porcelaine était plus blanche que la couleur de la peau de Tati, qui avoisinait plus celle de la bisque de langoustine, ou du moins celle que la mère de Oli préparait. Un peu plus grise que l'os, plus crème que l'ivoire, crème mélangée à une goutte de violet. Dans certaines lumières et sur certaines photos, on décelait même un soupçon de bleu pâle sur le visage de Tatiana, un peu plus sombre aux tempes, sous les yeux. Parfois, ses lèvres donnaient l'impression qu'elle émergeait tout juste du fond glacé de la piscine. Oli n'avait jamais vu de teint aussi beau, élégant, légèrement exotique. Mais la lumière blafarde ne lui convenait pas, ni la lueur du téléphone portable. « Pose ça, » dit Oli. Tati leva les yeux, ouvrit la bouche, décalant légèrement ses mâchoires, puis souffla. Elle reposa le téléphone sur le comptoir en marbre de Lilo, puis lança en désignant l'appareil. « Je savais que ça t'énerverait. » Tu dis toujours « Vas-y, réponds à mon téléphone, mais il suffit que je prenne et tu es sur mon dos. » Oli secoua la tête. Elle en avait tellement assez de ce ton adolescent, de ces accusations machinales. Combien de temps cette phase de la vie de Tatiana allait-elle durer ? « Seigneur, Tatiana, descends d'un cran, tu veux ? Je ne suis pas sur ton dos, seulement je... Non ! Seulement tu me réprimandes machinalement ces derniers temps. Voilà ce qui se passe. Je ne fais jamais rien de bien. » « Écoute, » dit Oli en prenant le téléphone qui se trouvait entre elles. « On n'a pas le temps pour ça. Est-ce que monsieur inconnu a rappelé ? Non. Bon. Si et quand ça se reproduit, tu n'auras qu'à répondre. Voilà. Si le téléphone sonne, tu réponds. Et jusque-là, tu as ton propre téléphone et laisse le mien sur le comptoir où je pourrai le trouver au cas où ton père appelle. » Je le regardais à côté du comptoir. « Bien, d'accord, chérie. Tu as gagné. Je suis désolée, vraiment. Nous n'avons pas le temps pour ce genre d'histoire. » Il faut que je me mette à la cuisine ou bien nous n'aurons rien à manger. « Mon Dieu, maman, ça fait 2 heures que tu devrais y être, » dit Tati. « Tous les ans, tu commences à cuisiner à quoi ? 8 heures du matin ? Il est 11h30. » Oui, eh bien cette année j'ai dormi tard, d'accord? Cette année je me suis levée tard. Tue-moi, Tati, achève-moi simplement, je t'en prie. Oli se tourna et força un rire contraint hors de ses poumons pour tenter de diluer le vacarme de sa colère, et également pour s'épargner l'indignité d'avoir perdu toute contenance. Mais son cœur pulsait violemment, à cet endroit tendre à la base de son cou, ce qui lui donnait l'impression d'être une sorte de créature aquatique, comme s'il s'y trouvait des branchies affolées. C'est à peine si elle pouvait déglutir. Elle s'apprêtait à informer Tati en quoi elle pourrait aider pour accélérer la préparation du repas de Noël, au lieu de se plaindre. Quand depuis le comptoir où il était posé, le téléphone se mit à jouer « A hard rain's gonna fall ». Oli se tourna, Tatiana fixait le téléphone du regard sans le toucher. « C'est papa ?» demanda Oli. « Non, c'est inconnu, » répondit Tati. « Eh bien vas-y, réponds si tu veux, chérie. » Mais Tatiana restait là, à fixer le téléphone. Elle s'était assise sur un des tabourets autour de l'îlot de cuisine, si bien que ses pieds dans leurs petits chaussons noirs pendaient à présent à 10 cm du sol, exactement comme quand elle mesurait 1 mètre et qu'elle était installée à l'arrière de la voiture dans son siège auto pendant que Oli l'accompagnait à la garderie. Seigneur, Oli se sentait si triste. Elle avait réprimandé sa fille qui avait dorénavant peur de toucher à son téléphone, et la pauvre Tati avait l'air préoccupée. Ses sourcils arqués formaient un V à l'envers sur son front. Ils étaient bruns, un peu broussailleux, les sourcils de Tati. Mais c'était à la mode aujourd'hui, et les traits de son visage étaient si élégants qu'aucun sourcil n'aurait pu les gâcher. Pourtant, un jour, Tati voudrait probablement les épiler, et cette idée attrista également Oli. C'était tellement difficile d'être féminine, toujours devoir s'arranger, s'épiler et maigrir, et se priver et s'inspecter, afin de se sentir à l'aise dans ce monde. Bob Dylan continuait de chanter ses paroles d'une voix éraillée. Et Tati fixait toujours le téléphone du regard. Une fois encore, son visage prit cette horrible teinte, le bleu argenté d'un poisson jeté sur un quai, et elle ne fit pas le moindre geste pour répondre au téléphone de sa mère. « Bon d'accord, » dit Oli, et elle prit l'appareil et appuya du pouce sur la barre verte pour répondre. « Allô ?» Mais l'appel avait déjà été transféré vers la messagerie, et s'il existait un moyen pour couper la messagerie et reprendre la communication à ce stade, Oli ne l'avait pas appris. Elle reposa le téléphone sur le comptoir et inclina la tête vers Tati, décidée à ne pas lui demander pourquoi elle n'avait pas répondu. Il s'agissait de toute évidence d'une sorte de punition, après que Oli lui eut ordonné de poser le téléphone quelques minutes plus tôt. Oli n'avait aucune envie d'adopter à nouveau une position défensive, particulièrement parce que sa réaction avait été irrationnelle, ce que Tatiana savait tout à fait et pouvait lui rappeler en un éclair. Oli avait demandé à sa fille de reposer le téléphone parce qu'elle n'aimait pas la teinte que l'appareil donnait à sa peau quand elle le consultait. Il n'était certes pas nécessaire d'expliquer cela. « Personne ne va laisser de message, » dit Tati. « Il n'y en a jamais dans ce cas. » Et donc le rythme après s'accélère en deuxième partie, à mesure que la tension monte. Il y a des souvenirs qui ressurgissent, et dans le récit de la journée, l'auteur nous fait assister à la prise de conscience de Oli. Donc elle prend conscience d'un déni qu'elle a maintenu enfoui depuis une 15aine d'années. Et l'apparition des souvenirs, notamment de l'orphelinat, révèle des événements que Oli avait refoulés et qui donnent son sens à la situation. Pensez-vous que sa mère l'a abandonnée ou bien qu'elle est morte ? Demanda Oli à Anya, l'infirmière qui aimait visiblement le plus Tatiana et qui, heureuse coïncidence, parlait le mieux anglais. Anya leva brièvement les yeux vers le plafond et déclara. Pour ce monde, la mère est morte. Cette déclaration ne révélait rien, bien entendu. Morte pour ce monde ne signifiait pas nécessairement morte. De toute évidence, tous les enfants de l'orphelinat Pokrovka numéro 2 étaient nés dans la pauvreté ou dans un contexte de toxicomanie conduisant à la pauvreté, ou bien ils étaient le fruit de liaisons clandestines, ou bien leur mère était très jeune, des filles mères. Ses parents étaient morts pour ce monde, qu'ils le soient réellement ou pas. Il y avait également des orphelins. Une grande salle pleine, en fait, que Oli avait furtivement découverte toute seule, qui était si malade ou handicapée que même une famille fonctionnant normalement pouvait les avoir abandonnés. On gardait ses enfants derrière la porte interdite aux visiteurs, une porte que Oli avait ouverte et franchie. Comment aurait-elle pu faire autrement? Pendant que les quelques rares membres du personnel étaient occupés ailleurs. Sur la porte de cette pièce, il y avait une pancarte imprimée professionnellement en russe, puis traduite au feutre rouge juste en dessous, dans un anglais mauvais mais empathique. Ici, personnel ouvre seulement. Oli n'y aurait jamais fait attention, ni même pensé sans cette pancarte. C'était pourtant leur première visite en Sibérie, à l'époque de Noël, quand il leur semblait encore important de tout savoir de l'orphelinat où ils adoptaient leur fille, de se méfier, avant que Oli ne parvienne à la conclusion que l'acceptation aveugle comme argent comptant de tout ce qu'on pouvait leur donner ou dire les conduirait plus vite et l'esprit plus en paix, hors de Sibérie et de retour aux États-Unis avec leur nouvelle fille. On était le 26 décembre, c'était leur deuxième jour en Sibérie, et il n'y avait eu personne à cet instant dans les parages pour empêcher Oli d'ouvrir cette porte. Eric, près du berceau de bébé Tati, la tenait endormie contre lui, pendant que deux infirmières en service s'affairaient alentour, les bras chargés de draps, tous tellement gris ou jaunis et froissés qu'il était impossible de savoir s'il s'agissait de draps propres ou sales, et de sacs poubelles en plastique noir dans lesquels elle mettait ou prenait ses draps. Personne ne remarqua Oli devant la porte. Elle posa la main sur la poignée et poussa la porte, surprise qu'elle ne soit pas fermée à clé, qu'aucune alarme ne retentisse. Si on la surprenait, elle dirait qu'elle s'était trompée en cherchant les toilettes. Et Oli avait rapidement franchi le seuil, refermé soigneusement derrière elle, afin que personne ne l'entendît. Elle comprit aussitôt que c'était une erreur, qu'elle n'aurait pas dû se trouver là, qu'elle aurait dû obéir à l'ordre de la pancarte. Elle aurait dû s'épargner cela pour son bien. Bien sûr, elle l'avait su, n'est-ce pas ? Si elle ne l'avait pas compris plus tôt, maintenant elle comprenait tout à fait. Tous les secrets ne devraient pas être révélés, tous les mystères ne devaient pas être résolus. Bien que la salle, prise en photo, ne semblât pas si différente de celle remplie de berceaux dans laquelle dormait Tati, la même lumière blafarde, les mêmes rideaux imprimés de rayures bleues délavées. Il fallait pénétrer dans cette pièce pour comprendre à quel point elles étaient totalement différentes. Pas seulement par l'odeur, de vomi, d'excréments, de matelas imbibés d'urine, ou par le bruit, silence complet, ou le calme, mais par l'impression qu'en passant cette porte, on franchissait une sorte de barrière entre le monde des vivants et celui, pourri, qui se trouve juste au-dessous. Oli ferma les yeux, recula, reposa la main sur la poignée de la porte, s'efforçant d'effacer de son esprit ce qu'elle venait de voir brièvement, et certainement de ne pas en voir davantage, mais elle ne pouvait ouvrir la porte sans rouvrir les yeux, et quand elle le fit, elle assimila la pièce malgré elle, ses dizaines de millions de détails terribles se fondant fort heureusement les uns aux autres, à l'exception d'un seul. Un garçonnet, dont le poignet était attaché à un barreau de son berceau, la tête deux fois plus grosse que son torse, les yeux ouverts, sans cligner des paupières. Puis elle se retrouva de l'autre côté de cette porte, la refermant de nouveau derrière elle et décidant d'un rapide claquement d'élastique sur son poignet, non seulement de ne plus jamais la rouvrir, mais encore de ne plus jamais y penser. Elle entendit Annette Sanders lui dire, aussi clairement que si elle se tenait près d'elle à l'orphelinat Pokrovka numéro 2, « Prendre connaissance des horreurs de ce monde et ne plus y penser ensuite, ce n'est pas du refoulement, c'est une libération. » Et donc petit à petit, les éléments s'agencent. Et à un moment, on croit avoir compris en fait de quoi il s'agit et qu'est-ce que Oli a tellement refoulé là depuis toujours. Et là, on est saisi par le dénouement en fait qui va bien au-delà de ce qu'on avait pu imaginer. On ne pouvait pas y penser à ça. Et ça, c'est fascinant. Et ce qui est encore plus fascinant dans ce moment-là où on comprend ce qui s'est passé, c'est qu'on comprend aussi qu'on avait tous les éléments depuis le début en fait. On pouvait tout comprendre. Et le lecteur, comme le personnage, disposait de toutes les clés. L'auteur a donné toutes les réponses quasiment tout de suite, enfin bon, en tout cas tout au long du récit il y a des réponses, mais nous on préfère suivre le personnage dans sa conviction, là, dans son déni, et quand le personnage y redécouvre ce que lui il savait déjà, on a l'impression d'avoir fait l'expérience du déni avec lui, de nous-mêmes avoir été dans le déni dans ce bouquin, quoi. Voilà, et c'est donc ce qui m'a vraiment touchée dans ce livre, c'est la prouesse de l'auteur à nous faire vivre ce déni, en fait, avec le personnage, on le vit ensemble. Et il y a cette sensation de s'être laissé happer dedans et d'avoir préféré le déni à la réalité. Pourtant, elle lui laisse sa place à la réalité, elle lui laisse la place d'exister si on y prête attention. Et donc, il y a cette impuissance à imaginer que la situation puisse aller aussi loin aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, là, on croit avoir compris, mais ça nous tombe quand même dessus à la fin, comme ça, paf, quoi. Et du coup, j'aime bien aussi la manière là, dont elle laisse s'installer le suspense. Il y a un truc qui s'installe petit à petit, la tension monte comme ça, comme un peu de l'air qui s'infiltre sous une porte. On le sent s'installer, on se sent être pris là-dedans. Et donc, au bout d'un moment, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe à la fin, là. Et on ressent la même excitation mêlée d'angoisse qu'on rencontre à la fin d'un thriller ou d'un policier. Moi, j'ai vraiment ressenti ça, quoi. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On veut vite arriver à la fin pour savoir ce qu'il en est vraiment. Et en plus de tout ça, moi j'ai trouvé que l'auteur faisait preuve de vraiment finesse encore une fois, parce qu'elle fait éclater la folie là dans un univers a priori tout à fait lisse et normal, si on peut dire. Voilà, c'est une famille qui fête Noël en famille et qui attend ses invités. Alors qu'en réalité, on s'aperçoit à la fin que la situation est déjà inextricable et que les personnages ont déjà perdu pied. Voilà, donc pour terminer, je voulais expliquer pourquoi je trouvais cette auteure intéressante au-delà de ce roman précis. En fait, je la trouve subtile dans sa manière de décrire le quotidien et les névroses des femmes, et des mères de famille surtout. Donc je trouve vraiment qu'elle montre avec subtilité la manière dont elles se font enfermer dans leur quotidien, un truc tout en douceur comme ça. Il y a un processus de glissement qui s'est opéré dans leur vie, pour qu'elles se retrouvent étriquées dans leur univers, sans forcément être malheureuses d'ailleurs, hein, parce que Holly, là, qu'on voit dans Esprit d'hiver, elle semble pas malheureuse dans sa vie. Et donc voilà, donc l'auteur, elle construit un univers feutré, là c'est presque évanescent ou impalpable. Et je trouve ça très cohérent avec les parcours qu'elle décrit. Et en plus, il y a une métaphore que moi j'apprécie beaucoup, là, que je sais pas pour les autres romans, mais en tout cas pour Un oiseau blanc et Esprit d'hiver, il y a le blizzard qui est toujours là, la neige, comme ça, c'est un climat assez rude, c'est l'hiver. Et on est à l'intérieur des foyers, il fait chaud, il fait bon, mais dehors il y a ce blizzard. Cette neige et la lumière qui y correspond, là, une lumière blanche, un peu, comme ça. Et donc, je trouve que ça symbolise assez bien l'état intérieur des personnages de femmes qu'elle décrit, là, quelque chose un peu d'évaporé, quoi. Et voilà, donc on est témoin de ces parcours de femmes qui se sont laissées s'oublier dans leurs obligations de vie de famille, et elles se sont laissées déposséder de leurs ambitions. Et on voit aussi comment elles utilisent leurs préoccupations quotidiennes comme un outil pour refouler leur déception ou refouler le sentiment qu'elles ont de ne pas être allées au bout de leurs ambitions. Ça, c'est quelque chose qui revient dans Esprit d'hiver notamment. Donc voilà, ça me semblait être un regard assez lucide et juste sur nos contemporaines. Voilà, on a terminé. Donc j'espère que cette présentation vous aura donné envie de lire ce bouquin et cet auteur aussi, pas uniquement ce livre. Et j'espère que si vous la lisez, vous y prendrez autant de plaisir que moi j'en ai eu. Voilà, on se quitte avec un peu de musique, donc c'est le morceau Become the Color d'Emily Wells. Allez, salut! I'm not afraid to die.
Alors, on vient d'écouter Become the Color de Emily Wells dans la chronique de Marine. Il y aura probablement d'autres chroniques littéraires de Marine. On va donc passer maintenant à une présentation de Lola Lafont, donc par Viviane. Et ensuite, Lucie va nous présenter rapidement le nouveau livre de Virginie Despentes.
Alors, Lola Lafont, c'est une romancière, chanteuse et compositrice. Et elle est féministe et libertaire. Elle a écrit plusieurs livres. Une fièvre impossible à négocier, De ça je me console, Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, et La petite communiste qui ne souriait jamais. Donc il y a toujours le thème du féminisme qui revient dans ses livres. Elle a aussi fait deux CD, Grandir à l'envers de rien et Une vie de voleuse. Et je vais vous lire la quatrième de couverture de Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. Le cœur d'Émilienne, surnommée Émile, s'est arrêté de battre trop longtemps. Maintenue en vie par une machine, elle semble ne jamais devoir se réveiller. À ses côtés, la narratrice puise courage et patience dans l'évocation de leur amitié et des souvenirs partagés, les engagements enflammés par l'une, la pratique passionnée de la danse pour l'autre. En l'absence de celle qui s'attarde au bois dormant, la narratrice fait la connaissance d'une étrange jeune femme qu'elle surnomme la petite fille au bout du chemin. Celle-ci la projette dans une vie palpitante qui jusqu'ici l'effrayait. Une vie où l'on tourne le dos au silence et à la prudence, où l'on se révolte et l'on se bat, une vie qui aurait un sens enfin. À travers trois portraits bouleversants, ce roman, irrigué d'un feu poétique dévastateur, proclame l'insurrection nécessaire des jeunes femmes aspirant à la liberté. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus aussi sur cette fille, il y a une interview d'elle dans Article 11, le numéro 13, et je vais vous en lire un petit passage. C'est le paragraphe qui s'appelle « Conte et étincelle ». Dans mon premier roman, donc c'est Lola Lafont qui parle, dans mon premier roman, Une fièvre impossible à négocier, la narratrice se trouve clairement immergée dans un milieu politique radical relevant de l'autonomie. Elle vit dans un squat, se rend à des contre-sommets, apprend à participer à des actions. En somme, elle est une sorte de super militante pour qui tout marche bien. J'ai totalement changé d'approche pour la suite. À l'époque où j'ai commencé à écrire « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce », j'ai d'ailleurs confié à un ami que je voyais ce livre en projet comme un manuel de lutte pour les filles qui n'y connaissent rien, comme un conte insurrectionnel. En matière d'action politique, les trois filles qui sont au cœur du récit restent des amatrices. Il s'agit d'anti-héroïnes qui s'essayent au geste révolutionnaire, lequel n'est d'ailleurs pas défini en tant que tel. Et l'aspect pratique s'immisce forcément. Comment on fait pour foutre le feu à un bâtiment et pour écrire des phrases sur les murs? Voilà l'idée de départ, gloire à l'amateurisme. La figure du héros ou de l'héroïne rend en réalité le lecteur ou la lectrice très spectateur. Or, je voulais que ces filles ne soient pas intimidantes, qu'on sente une appropriation chez elles, un apprentissage. Cela implique qu'elles ratent des trucs, que parfois ça foire. Ça renvoie aussi à ma propre expérience de militante. J'aime l'idée que tout n'est pas déjà tracé, qu'il y ait des voies à expérimenter, ce qui n'est pas forcément le discours dominant dans ces milieux. Donc voilà, donc c'est les livres de Lola Lafont. Et moi, je vous conseille de commencer par « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce ». C'est son troisième bouquin et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà.
Bah dis donc, ça a l'air super, moi, entre les deux chroniques littéraires. Là, j'ai envie d'aller direct à la librairie acheter des bouquins. Ça a l'air cool. Bon, donc maintenant, on va dire deux, trois petits mots sur Virginie Despentes. Elle a sorti donc un nouveau livre. Qui s'appelle Vernon Subutex. Et bon, ça a l'air bien trash, comme d'habitude. Et je ne l'ai pas lu. Et j'aimerais bien, si on a une auditrice là qui nous écoute et qui voudrait venir faire une chronique, elle est tout à fait bienvenue pour nous dire comment est le nouveau roman de Virginie Despentes. Ce qui paraît que le dernier n'était pas terrible, alors je ne me suis pas donné de la peine de le lire. Mais. J'espère que le prochain est bien, enfin le nouveau là.
Ouais. Et puis moi je l'ai juste entendue en interview là il n'y a pas longtemps et je la trouve quand même assez marrante parce que Du coup, je sais plus, la personne qui l'interviewait disait oui, mais vous avez quand même changé de vie. Est-ce que ça change votre façon d'écrire? Elle était ah bah oui, bah maintenant c'est sûr. Maintenant que je suis bourgeoise, c'est sûr que je peux pas faire pareil qu'avant. Et du coup, elle est hyper lucide aussi sur son changement de conditions de vie et sur comment ça influence aussi ses écrits. Et du coup, moi, je trouve ça assez chouette que les personnes qui vivent ça, elles aient une lucidité là-dessus, quoi. Voilà, c'était mon petit mot sur Virginie Despentes.
Du coup, l'appel est lancé si quelqu'un veut venir nous en parler. Maintenant, on va passer à une petite chanson en live avec Viviane qui nous chante Pescador y Guitarrero.
Pescador del Paraná que espera pique de sueño mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero. Yo te he visto en la alborada con carnadas y aparejo y un silbido entre los labios que te sigue como perro. La niña del agua tiene de escama la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escama la cabellera. Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas y hay un anzuelo clavado en su boca de madera. Pescador y guitarrero, el tiempo es como un dorado que se nos va de las manos cuando menos lo esperamos. La niña del agua tiene de escama la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escama la cabellera. Pescador del Paraná que espera pique de sueño mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero. Pescador del Paraná que espera pique de sueño mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero.
Bravo, 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 super. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots éventuellement sur la chanson que tu viens de nous interpréter, Viviane?
C'est une chanson du répertoire populaire d'Argentine. Et celle-là, elle vient d'Argentine du nord-est, de la région de Corrientes, à côté du Rio Paraná, qui est un immense fleuve. Et voilà, donc il y a ce rythme très typique là-bas. Et ils disent, les musiciens et les musiciennes de cette région, que c'est ce fleuve-là, en fait, c'est par ce fleuve-là, c'est dans ce fleuve qu'ils puissent toute leur inspiration.
Voilà. Et du coup, la chanson, elle parle de ça, de cette inspiration, ou d'autre chose complètement?
Elle parle des pêcheurs, et elle parle des rêves des pêcheurs, et elle fait une relation entre les pêcheurs et les guitaristes. Voilà.
C'est trop bien.
En plus, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des musiciennes en live. Alors, bravo et merci.
Mais de rien.
Maintenant, on va passer à une petite page agenda.
On va plutôt écouter, je pense, La Mal Coiffée.
D'accord.
Oui, super.
Juste pour une petite présentation. La Mal Coiffée, c'est un groupe actuellement de 5 filles. Au début, elles étaient 6. Et elles chantent un répertoire de chansons en langue occitane. Et donc, la chanson qu'on va écouter, elle est tirée du CD Polyphonie Occitane. Et elles en ont fait 4, en fait, des CD. Donc, Polyphonie Occitane, le deuxième à la gacha, le troisième ou Los Hommes, et le quatrième, du coup le dernier, qui est sorti en 2014, L'Ambéliner. Donc là, c'est la première de Polyphonie Occitane.
Aujourd'hui, donc nous sommes le 9 janvier. On voudrait juste dire quelques mots pour commémorer Leila Shailemez, Sakineh Janjuse et Fidan Doğan, qui sont donc trois militantes kurdes féministes qui ont été assassinées à Paris il y a 2 ans. Rappeler aussi que la lumière n'est pas faite sur leur assassinat et que leur mémoire continue à vivre.
Que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, es domingo a la noche.
matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar, y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más, pero el viernes la sonrisa no me la puedo sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Puedo levantar, no me gusta madrugar, necesito descansar, 5 minutitos más, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, no me gusta madrugar, yo prefiero trasnochar y salir a bailar. Hay que agregarle un día al fin de semana porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2 à l'écoute de l'émission Lilith Martine et les autres. On attend encore une invitée. Alors, moi, je n'avais pas complètement prévu, mais je vais en profiter pour vous parler un petit peu du film Bande de filles et surtout des critiques qu'il y a autour. Je ne vais pas m'attarder sur les critiques, il y en a pas mal. Et moi, quand je suis allée le voir, j'étais hyper enthousiaste d'aller le voir. Et en fait, j'étais hyper déçue et ça m'a posé plein de questions. Donc, je suis allée un peu chercher des trucs à lire là-dessus et notamment sur le site des Indigènes de la République. Où il y a un discours hyper construit sur ce que ça a de raciste en termes de racisme intégré que ce film diffuse, quoi. Et notamment, en fait, il faisait référence à un autre film qui s'appelle Dear White People, donc Chères personnes blanches, qui est un film qui est fait par un réalisateur états-unien, si je ne m'abuse, et qui n'a pas du tout de distributeur en France, et même aux États-Unis, il a très peu d'audience. Et c'est un film qui parle notamment d'une meuf, c'est un peu une meuf, l'héroïne, sur un campus aux États-Unis, et donc d'une meuf noire, et de tout un combat de personnes donc racisées qui du coup reprennent un peu ce truc de se dire noir avec la fierté qu'il y a avec, et qui mène une émission de radio où ils font des messages, et donc ça commence toujours par Dear White People, donc chères personnes blanches, et qui dénonce un peu plein de faits de racisme intégré. Et voilà. Et du coup, on peut trouver la bande-annonce sur Internet, on peut même trouver le film en entier, mais il n'y a pas de sous-titres qui ont été faits en français. Et à ma connaissance, en tout cas, il est distribué dans aucune salle en France. Il n'a pas du tout de sortie française. Donc voilà, c'était un petit peu un des trucs qui était dit sur site de, par exemple, en tant que personne blanche, comment agir sur l'industrie du cinéma aussi pour faire qu'il y ait des réalisateurs noirs qui montrent des combats autour du racisme qui soient connus, notamment c'est de parler de ce film, de parler de sa non-distribution, puis d'encourager peut-être les gens à faire des sous-titres et à faire des projections dans les lieux de diffusion qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, je rappelle le titre du film, c'est Dear White People.
Et on peut le voir sur Internet ?
Ouais, ouais, il est en entier sur Internet. Je l'avais cherché, on peut le trouver. Je ne sais plus si c'est sur YouTube ou ailleurs, mais en tout cas, il est justement, comme il a très peu de distribution, ben, on peut le trouver, on peut le télécharger, on peut le voir en streaming sur Internet. Voilà.
Bon, bah, sur ces belles paroles, nous allons écouter une autre petite musique. C'est parti.
Hush now. Don't explain. There ain't nothing to gain. I'm glad that you're back. Don't explain. Quiet, baby. Explain. There is nothing to gain. Skip that little lipstick. Don't explain. You know that I love you and what love endures. All my thoughts are of you, for I'm so completely yours. Don't wanna hear folks chatter, 'cause I know you cheat. Right and wrong don't matter when you're with me, my sweet. Hush now, don't explain. Don't you know you're my joy and you're my pain?
Toujours sur Radio Canu au 102.2 dans l'émission Lilith, Martine et les autres. Et ça y est, nos invités sont arrivés. Donc on vous laisse présenter.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Donc on est l'équipe des meufs du projet du centre social autogéré dont vous avez peut-être entendu déjà un petit peu parler. Et on vient juste pour vous présenter une soirée qu'on organise. Qui aura lieu donc le samedi 17 janvier à l'atelier des Canulars à 20h. Et c'est donc une soirée de show burlesque en non-mixité meuf, meuf cis, meuf trans. Voilà, ça va être sympa. Peut-être que du coup je vais laisser ma camarade parler un peu du contenu du programme.
Alors d'abord je peux peut-être faire un petit rappel sur ce qu'est le burlesque. Donc le burlesque, c'est une sorte de striptease, mais classe, où on ne finit pas complètement à poil. On termine souvent, très souvent en string ou avec un cache-sexe et avec des nippies, donc des cache-tétons pour celles qui ne savent pas. Y a souvent une maîtresse de cérémonie qui présente les shows, une stage kitten, qui ramasse les vêtements des effeuilleuses et également qui prépare les shows. Donc s'il y a par exemple des chaises et puis des éléments de scène à placer sur la scène avant le début des shows. Donc là pour samedi 17 janvier, nous aurons l'honneur d'accueillir Lady Dada, qui fait partie de la scène burlesque lyonnaise, ainsi que Ginger from Venus et Sweet Cherry, qui font toutes les deux aussi partie de la scène burlesque lyonnaise, qui organise pas mal de soirées sur Lyon. Et nous aurons également Lilou Blue et Birdie Stomp, donc qui sont moins connus de la scène.
Concernant la non-mixité, donc c'est pour les personnes, donc c'est pour les meufs cis et les meufs trans. C'est un choix qu'on a fait pour. Ça n'a pas forcément été évident, enfin on peut le dire, de définir la non-mixité. On s'est dit que ce serait plus évident, plus sympa, enfin voilà. Voilà, mais du coup pour bien préciser et que les gens qui viennent voilà, sachent bien le cadre de la soirée. Voilà, un petit peu pour la soirée. Il y aura aussi donc il y aura une scène ouverte, aussi une possibilité de scène ouverte, peut-être à la fin. On verra, voilà, en tout cas s'il y a des personnes qui ont envie de venir faire un petit show, pourquoi pas à la fin aussi, on verra, peut-être qu'on improvisera des choses. Il y aura des pauses avec des moments de clips musicaux, et puis il y aura aussi des petits trucs à grignoter, donc voilà. Et donc la date, c'est samedi 17 janvier à l'atelier des Canulars à 20h, voilà, pour la soirée. Et puis aussi parce que du coup, pour le projet du centre social autogéré, on a organisé quand même pas mal de soirées, d'événements, de trucs ces deux dernières années. Enfin, ça fait un an et demi, quoi. Et du coup, c'est aussi la première fois qu'on organise une soirée, vraiment le collectif, la partie des meufs du projet du centre social autogéré. Et que du coup, ça nous semblait aussi sympa d'ouvrir un autre type d'espace aussi en se projetant dans notre projet futur, quand on aura un lieu, voilà, de poser déjà des choses et de se dire qu'il y aura possibilité d'organiser ce type d'événement. Voilà, c'était aussi pour annoncer un peu et pour annoncer notre projet.
Et c'en est où un petit peu là, la recherche de lieux? Vous avez déjà des vues sur des locaux? Vous en êtes au niveau des thunes?
Puisqu'on vise un projet à long terme, on souhaite donc louer un lieu. On est à la recherche d'un lieu, mais on n'a pas encore trouvé, mais ça ne devrait pas trop tarder. On a des petits sous de côté voilà, on espère que ça va bientôt se concrétiser.
On a deux pistes assez sérieuses qu'on est en train d'explorer là. Voilà, donc on s'est donné quand même une échéance. On se dit que là, on va dire au printemps, on espère vraiment qu'on aura ouvert quelque chose. Voilà, c'est vraiment ce qui est compliqué, c'est qu'on cherche à louer un lieu et quand même avoir un espace à la fois pour des activités sociales, culturelles, type des ateliers, et à la fois on aimerait aussi avoir un espace pour organiser des concerts. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que ça. Enfin, voilà.
Puis bon, il faut dire que ça prend du temps aussi, parce que du coup, les lieux suffisamment grands qui sont déjà proposés à la location, ça coûte extrêmement cher. Et qu'on vise plutôt sur des bâtiments abandonnés, à contacter directement les propriétaires pour pouvoir avoir un loyer au plus bas, quoi.
Voilà. Et du coup, si jamais il y a des gens qui ont des super plans, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, on a une adresse mail qui est. Notre adresse mail, c'est csalyon@riseup.net, je crois.
Peut-être.
À vérifier. Voilà, et puis une fois que le lieu sera ouvert, évidemment, toute personne qui a envie de venir nous donner la main, qui a des idées pour des activités, des concerts, des soirées, voilà, enfin, toute initiative sera la bienvenue.
Venez nombreuses.
Ouais.
Super. Bah, merci d'être venu nous présenter la soirée. Et bah, à bientôt.
À très bientôt.
À très bientôt.
Voilà, bah, c'est un peu la fin de l'émission. Là, je rappelle que l'émission elle sera disponible sur notre blog. Donc, vous allez sur le site de Radio Canu et tous les blogs des émissions sont affichés sur la page d'accueil. Donc, il y a Lilith, Martine et autres. Vous nous trouvez.
Là. Ah, j'avais pas branché mon micro. Donc je disais donc vous pouvez écouter cette émission sur notre blog Lilith, Martine et les autres, que vous trouvez sur le site de Radio Canu, et également sur la plateforme Radio Rageuse, donc
une nébuleuse d'émissions féministes en ligne. On rappelle aussi que vous pouvez venir écouter nos émissions en direct dans le local de Radio Canu. Il y a une salle devant qui est prévue à cet effet. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aussi nous écrire des mails pour nous faire part de vos remarques et réactions. Et puis oui, donc notre adresse c'est radiolilith@riseup.net. Voilà. Et bah, merci de nous avoir écoutés. Merci à toutes nos invitées et intervenantes. Et bonne soirée.
Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je fais le 17 et je donne. J'habite au rein de la rue des douches. Y'a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit: vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule là où j'ai laissé ce maboule. La douche est vide, il est parti. Le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit: écoute-toi, donne-moi du nougat. Écoute-toi, donne-moi du...